Première épître à Timothée, chapitre 4. On lira à partir du verset 8. Exerce-toi toi-même à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses, ayant la promesse de la vie présente et de la vie qui est à venir. Cette parole est certaine et digne de toute acceptation, car si nous travaillons et sommes dans l'opprobre, c'est parce que nous espérons dans le Dieu vivant, qui est le conservateur de tous les hommes, spécialement des fidèles. Ordonne ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois le modèle des fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, attache-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don de grâce qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains du corps des anciens. Occupe-toi de ces choses, sois-y tout entier, afin que tes progrès soient évidents à tous. Sois attentif à toi-même et à l'enseignement. Persévère dans ces choses, car en faisant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent.
La dernière fois, nous sommes occupés des versets 6 à 8 de ce chapitre 4. Nous avons dit que pour être serviteur, un bon serviteur du Christ Jésus, il faut être nourri dans les paroles de la foi et de la bonne doctrine. Nous avons cité plusieurs exemples de personnes qui se sont nourries de la parole de Dieu, qui ont mangé les paroles de Dieu, Ézéchiel ou Jean par exemple. Nous avons dit que c'est une nourriture vitale et agréable pour notre âme. Mais c'est aussi une nourriture qui nous reprend dans ce que nous avons à modifier dans notre vie. Pour nous garder des imaginations de notre cœur, des fables, et être des serviteurs de Christ Jésus, nous avons à nous nourrir de la bonne doctrine et des paroles de la foi. La bonne doctrine, ou la vérité, est reçue par la foi, avec prière, pour la recevoir de la part de Dieu. En faisant ainsi, nous nous exerçons également à la piété, qui est notre relation intime avec Dieu, la relation intime de l'âme avec son Dieu, à travers sa parole. La piété, elle se développe, nous avons dit, à travers ce que nous apprenons de Dieu par sa parole. C'est-à-dire ce que nous apprenons de Dieu, c'est-à-dire ses pensées, ses désirs, sa personne, par exemple. Et nous apprenons cela dans les évangiles, dans les épîtres et finalement dans toute la parole. J'ajoute pour terminer que cette piété est utile à toute chose, car non seulement elle nous apporte la bénédiction pour cette vie, mais aussi pour celle qui est à venir. C'est la promesse du verset 8. Ayant la promesse de la vie présente et de la vie qui est à venir. Peut-être faut rajouter quelque chose.
Juste une remarque sur le verset 6 à propos du service de Timothée, d'enseigner, d'exposer. L'apôtre emploie ce mot en proposant ces choses aux frères. Et il ne dit pas en enseignant, en ordonnant dans le passage, il dit en proposant. Et c'est un verbe où on sent qu'il, qu'il y a beaucoup de douceur et beaucoup d'humilité. Et sans doute un des caractères de celui qui enseigne, à travers ce que l'apôtre dit à Timothée, c'est un enseignement, c'est proposer ces choses aux frères, c'est-à-dire les proposer avec une vraie humilité, non pas une humilité affectée, mais une vraie humilité. Un enseignement, c'est proposer des choses pour l'édification. Dans ces versets 6, je reprends juste les versets 6 au verset 10 inclus, l'apôtre Paul enseigne son enfant Timothée sur la vie intérieure de celui qui enseigne. Et au-delà de celui qui enseigne, il lui parle de notre vie intérieure. Et à partir du verset 11, où il est dit « ordonne ces choses et enseigne-les », nous avons la vie extérieure ou la vie publique. C'est-à-dire que, selon Dieu, il y a un ordre. Celui qui enseigne, eh bien, il doit commencer par sa vie intérieure. Et sa vie intérieure doit être en règle avec Dieu. Et il y a trois choses qui transparaissent dans ces versets 6 au verset 10. L'enseignant, il doit d'abord se nourrir lui-même, il doit s'approprier pour lui-même ces paroles de la foi et de la bonne doctrine et de les mettre en pratique. La première chose, c'est se nourrir soi-même. Et cela fait partie de notre vie intérieure. Et déjà, nous voyons quelque chose de très sérieux. Et pourrait chacun se poser cette question, qu'en est-il de ma vie intérieure avec Dieu? Elle se compose de quoi? Et alors, le deuxième point qui suit, la vie intérieure du chrétien doit être nourrie de la parole de Dieu, nourrie des paroles de la foi et de la bonne doctrine. Et après, il est dit, c'est le deuxième point, c'est la piété. La deuxième chose, c'est cette vie intérieure, la piété, cette relation, comme on a dit, cette relation avec Dieu. Nous avons, en tant que croyants, en tant que chrétiens, croyants, croyantes, une vie avec Dieu. Et cette vie avec Dieu, personnelle, intime, c'est la piété. Et cette piété, eh bien, elle se développe. Cette piété, nous pouvons dire qu'elle doit être entretenue et se développer. C'est-à-dire ma relation avec Dieu, au fur et à mesure que j'avance dans ma vie, eh bien, elle doit être de plus en plus profonde et s'approfondir. Et c'est ce que dit l'apôtre à Timothée, exerce-toi toi-même à la piété. Il faut que notre relation personnelle avec Dieu soit de plus en plus étroite, c'est-à-dire par la prière, par la compréhension de la vérité que nous devons saisir par la foi et par l'opération du Saint-Esprit en chacun de nous. Nous devons recevoir cette vérité, nous l'approprier pour nous-mêmes, et nous allons à ce moment-là approfondir notre connaissance sur Dieu lui-même, sur le Seigneur Jésus, mieux connaître sans doute les vérités de la parole de Dieu, et donc nous avons une voie qui est ouverte devant nous Pour chaque chrétien, c'est une vie de piété qui doit aller en s'approfondissant. Le troisième point de notre vie intérieure, c'est dans le verset 10, « Nous espérons dans le Dieu vivant qui est le conservateur de tous les hommes et spécialement des fidèles. » C'est la confiance en Dieu, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les contradicteurs à la vérité. Eh bien, avoir confiance en Dieu, non seulement il a soin de nous, mais il nous conserve en vie en travers toutes les circonstances que nous pouvons rencontrer dans la vie de l'Assemblée en particulier.
L'exercice de la piété, il est bien dit, exerce-toi toi-même à la piété. La piété n'est pas un don, c'est un exercice. C'est comme la prière n'est pas un don, comme le culte dimanche matin n'est pas un don, c'est toujours un exercice. Exerce-toi toi-même à la piété. Le mot piété, il est dans l'Ancien Testament déjà, dans Osée 6, 10 et 12, déjà dans le prophète Osée, et dans un des psaumes, je crois psaume 43. Et puis il est cité dans la première épître à Timothée au moins une dizaine de fois, et deux fois dans 2 Timothée, et deux fois en Tite, et quatre fois dans la deuxième épître de Pierre. Chapitre 1 et chapitre 3, 11. Donc la piété est importante, c'est un exercice personnel. On ne peut pas marcher, vivre dans la piété d'autrui. C'est soi-même qu'il faut être en relation vivante avec Dieu continuellement, en communion avec le Père et avec le Fils. Donc la piété est un exercice personnel.
On a une illustration, il me semble, de ce qu'on vient d'entendre par rapport à la piété, à s'exercer soi-même à la piété. On a dit que c'était lié à cette relation qu'on a avec Dieu, par la prière, par la compréhension de la vérité. On en a une illustration dans Proverbes, dans le livre des Proverbes, au chapitre 2. On pourrait lire les 5 premiers versets. C'est la sagesse qui parle. « Mon fils, si tu reçois mes paroles... et que tu caches par devers toi mes commandements, pour rendre ton oreille attentive à la sagesse. Si tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles le discernement, si tu adresses ta voix à l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent, et que tu la recherches comme des trésors cachés, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. » On a ici trois aspects. Le premier, c'est l'état du cœur. On a parlé de la prière, on a parlé de la connaissance de la vérité. Mais le premier point dans cette relation qu'on a avec Dieu, c'est quel est l'état de notre cœur. Ici, on a cette expression « incliner son cœur à l'intelligence ». Est-ce que quand on lit la parole... on a cet exercice pour nous laisser sonder par elle. Est-ce qu'on a cet état d'humilité ou bien est-ce qu'on va déjà avec nos idées préconçues? Le deuxième point, on en a parlé, si tu appelles le discernement, si tu adresses ta voix à l'intelligence, est-ce qu'on n'a pas là quelque chose de la prière, de la dépendance vis-à-vis de Dieu? Et puis, si tu la recherches comme de l'argent, que tu la recherches comme des trésors cachés. C'est une image qui est très simple, même pour les enfants ici, des trésors cachés. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en 5 minutes, quand quelqu'un va chercher un trésor. Ça prend du temps. Ici, c'est par rapport à la sagesse. Et on sait que la sagesse, c'est la personne du Seigneur Jésus. Alors, est-ce qu'on prend ce temps, quand on ouvre la parole, de rechercher, de prendre ce temps pour connaître le Seigneur Jésus lui-même ? Et alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Est-ce que ce n'est pas directement cela, la vie de piété ? Donc c'est trois points, l'état du cœur, la prière et la recherche de la vérité.
Exerce-toi toi-même à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toute chose ayant la promesse de la vie présente et de la vie qui est à venir. L'apôtre, à travers la comparaison avec l'exercice corporel, nous dit que la piété ne doit pas être négligée, mais entretenue. Et nous n'avons pas à nous relâcher. Et dans cette expression, ayant la promesse de la vie présente et de la vie qui est à venir, on peut être surpris de ce rappel de l'apôtre que nous avons la promesse de la vie présente et de la vie qui est à venir. L'apôtre veut dire simplement que, en tant que croyants, en tant que chrétiens, nous avons beaucoup de privilèges. Nous avons la vie éternelle, nous avons des bénédictions qui sont liées à la rédemption. Nous sommes rachetés, nous sommes bénis de toute bénédiction. Et donc, pourquoi ce rappel des promesses de la vie éternelle, de la vie présente et de toutes ces bénédictions à venir dont nous parle en particulier l'Épître aux Éphésiens. C'est-à-dire, l'apôtre nous dit de ne pas nous relâcher. C'est-à-dire, nous devons être conscients que nous sommes des chrétiens, des croyants qui ont la vie, qui sont bénis, mais ce n'est pas un sujet pour nous relâcher. Et nous savons, et cela arrive autour de nous, on voit des croyants qui ont la vie, et puis après qui mènent leur vie un peu à leur guise, comme ils l'entendent. Mais au fond, l'apôtre Paul, il nous dit le contraire. Il nous dit, vous avez la promesse de la vie éternelle, vous avez des bénédictions qui sont à venir, la promesse de la vie qui est à venir, mais ce n'est pas parce que vous avez ces promesses qui sont certaines que vous devez vous relâcher, pas du tout. Il nous dit au contraire, étant donné ces privilèges qui sont les vôtres, eh bien, vous devez être encore plus exercé à cette vie de piété, c'est-à-dire, au fond, approfondir la connaissance de votre Dieu et de votre Père qui vous a fait de telles promesses. Et donc, il nous met en garde contre ce danger du relâchement où nous sommes sauvés. On se sauve et puis on fait ce qu'on veut. Non, pas du tout. L'apôtre, il nous dit d'être exercé à la vie de la piété. Il désire donc d'être exercé, que nous soyons exercés à la piété parce que nous avons ces grands privilèges d'avoir la vie, la promesse de la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle et nous avons ces bénédictions à venir dans les lieux célestes.
En lien avec ce que Michel vient de dire, j'aurais une question. Oui. Ici, comme on vient de voir l'exercice de la piété est demandé à Timothée, et on nous a parlé du fait qu'il y a déjà des promesses qui sont en lien avec la vie présente et la vie qui est à venir, est-ce que justement cet exercice personnel de Timothée par rapport à la piété pouvait être une, pas une réponse, mais pouvait être la ressource face à ces mouvements? Je ne sais pas si déjà en ce temps-là, ils existaient, ce que l'on appelait, je crois que c'est l'épître, les épîtres de Jean qui en parlent, qui utilisaient un peu une certaine supériorité des corps exercés ou des corps traités avec rigueur pour montrer aussi une certaine piété, que ce soit les ascètes, les agnostiques et autres. Est-ce que c'était déjà ça en vue pour l'apôtre Paul, pour que justement on voit aussi dans cet exercice de la piété, eh bien, toutes ces ressources que l'on a en Dieu, en quoi faisant, eh bien, justement, en liant à ces promesses qui sont déjà présentes. Pourquoi ? Parce que ces fausses doctrines qui, après, ont pilulé, disaient, et je pense que malheureusement, ça existe encore, il y a des dictons qu'on entend, un corps saint dans un esprit saint dans un corps saint, ça n'a pas changé depuis, voulant donner de l'importance en plus aux exercices, est-ce que justement ce n'est pas déjà une réponse scripturaire à ces déviations qui, je pense, avec le temps, s'étaient encore amplifiées? Et quand on voit encore ce qui est dit ici, exerce-toi toi-même à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile. Je crois qu'on l'avait déjà dit dernièrement que celui qui veut s'exercer, eh bien, il s'entoure de discipline. Donc la discipline, on en avait parlé. Et est-ce qu'on peut aussi déjà dire que celui qui s'exerce, il va progressivement? On l'a un peu dit, je l'ai un peu retrouvé dans ce qu'on a dit, qu'on ne vit pas la foi d'autres. Et gardons-nous de vouloir s'exercer à une piété qui n'est pas en fait notre, je m'explique. Aujourd'hui, si on veut faire un marathon de 42 km, je pense qu'il faut déjà commencer à en faire un, se rendre compte que je peux tenir à un, deux et ainsi de suite. Est-ce que justement pour la vie de la piété, l'exercice de la piété, est-ce que c'est pas aussi, il nous est pas aussi demandé d'être justement humble et de faire du chemin avec le Seigneur, selon que le Seigneur nous donne de le connaître pour nous, pour ainsi faire des expériences avec lui, et non de le connaître, je ne vais pas dire par d'autres, mais voilà, en s'appuyant sur les convictions d'autres. Et là, c'est pour un peu nous remettre aussi tous en mémoire que le Seigneur veut que, comme on a dit, que nous croissions, eh bien, de façon toujours continuelle, régulière, et non que nous puissions croître et nous arrêter, rétrograder et après reprendre le chemin, mais que ce soit vraiment quelque chose qui, au fil des jours, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, eh bien qu'on puisse le connaître davantage et avoir ainsi des expériences avec lui. Donc c'était un peu cette question et en même temps aussi cet aspect de l'exercice qui est fait progressivement par rapport à la foi que l'on a dans le Seigneur. Une foi personnelle.
Pour répondre un peu à cette question, je pense que dans la piété, bien sûr, il y a un développement, un approfondissement dans la connaissance de Dieu, de la connaissance du Seigneur Jésus. Donc, une croissance spirituelle. Et sans doute qu'on peut faire une comparaison avec l'exercice physique. Il est parlé aussi dans 1 Corinthiens 9 de cet entraînement qu'avaient les athlètes de ceux qui participaient aux Jeux du temps de l'apôtre Paul. Et c'est sans doute une comparaison avec avec cet exercice corporel qu'il fait allusion ici et dans 1 Timothée. Mais il y a peut-être une différence entre l'exercice physique et l'exercice de la piété. Quand on fait de l'exercice physique, on peut éprouver le besoin de temps à autre de souffler, de s'arrêter. Mais en ce qui concerne la piété, je ne pense pas que l'apôtre Paul nous dit qu'il y a des moments où il faut souffler, où il faut s'arrêter. Mais au contraire, il présente la piété comme quelque chose d'exigeant et qui nécessite une vigilance et une soumission totale à Dieu. Et l'apôtre donc nous invite non pas à affaiblir cette vie, mais plutôt à la développer, cette vie de piété, et ainsi de ne pas abaisser notre responsabilité. Souvent on entend que bon, c'est trop haut ce que vous proposez, ou ce que propose la parole de Dieu, c'est trop haut. Non, c'est pas trop haut, c'est la parole de Dieu qui désire que nous fassions toujours des progrès. Comme Arnaud nous l'a dit tout à l'heure, il y a une progression, mais il n'y a pas d'arrêt. Et l'apôtre Paul, quand il dit à Timothée que cet exercice corporel est utile, eh bien c'est un exercice de la piété qui est journalier, qui est quotidien. De temps en temps, on cherche des distractions, les uns les autres, ça nous arrive, hein. On a envie d'un peu d'arrêter, de souffler, d'avoir des distractions. La parole de Dieu ne nous dit jamais de nous distraire. Dans le verset 11, à partir du verset 11, nous voyons que l'apôtre parle maintenant de la vie extérieure ou publique de celui qui enseigne, de l'enseignant ou du docteur. Et par rapport à ce qui a été dit au verset 6, de proposer ces choses, ici nous avons « ordonne ces choses et enseigne-les ». Nous dirions que le ton est un peu différent. Et le mot « ordonne » en relation avec la vie de piété, le mot « ordonne » souligne l'importance de la vie pratique du chrétien. Et le mot « ordonne » nous fait souvenir aussi des commandements. Nous savons que dans la parole de Dieu, il est parlé bien sûr dans l'Ancien Testament des commandements. Là, c'était sous la loi. Mais même sous la grâce, Dieu nous parle de commandements. Et nous savons que c'est un mot qui est assez difficile à comprendre. Et souvent, on est assez rétif sur le sujet des commandements dans la parole de Dieu. Juste, il faut signaler et souligner que les mots de commandement dans le Nouveau Testament sont toujours liés à l'amour de Dieu et à l'amour du Seigneur. C'est-à-dire quand Dieu nous donne, ou le Seigneur nous donne des commandements à suivre, le contexte nous montre que c'est toujours en rapport avec l'amour de Dieu ou l'amour du Seigneur. Et un commandement pour un chrétien, c'est la réponse d'amour du chrétien à l'amour de Dieu et à l'amour du Seigneur. Et donc quand l'apôtre dit « ordonne ces choses et enseigne-les », eh bien cela souligne non seulement l'importance de la vie pratique, mais en même temps cela souligne que les commandements sont un principe permanent de la famille de Dieu. Il y a, on pourrait faire la liste, mais elle serait très longue, des commandements dans le Nouveau Testament. Il est parlé, je crois, dans le chapitre 6 d'un Timothée aussi, d'un commandement. Dans Tite, il nous en est parlé. Dans les épîtres de Jean, première épître de Jean, deuxième épître de Jean. Et ce serait sans doute utile que chacun, dans le privé, regarde ce sujet des commandements. Dieu nous demande des choses, et est-ce que nous allons avoir une réponse d'amour à ce que Dieu nous demande? Est-ce que nous serons obéissants à ces commandements?
Dans le verset 8, que la piété est utile à toute chose, ayant la promesse de la vie présente et de la vie qui est à venir. On peut comparer ça avec Matthieu 6, verset 33. On pourrait lire, chercher premièrement le royaume de Dieu. Matthieu 6, 33.
Matthieu chapitre 6, verset 33. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
Cette parole est certaine et digne d'acceptation. C'est une parole qu'on trouve sept fois dans la parole de Dieu, dans toute la parole, et la dernière fois en Apocalypse 22, verset 6. Cette parole est certaine et véritable. Parole est certaine et véritable.
La piété est utile à toute chose, ayant la promesse de la vie présente et de la vie qui est à venir. On peut voir cette expression, ce fragment de verset, en contraste avec cette autre mention de la piété tellement solennelle dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 3, où il est parlé de personnes ayant la forme de la piété, mais en ayant renié la puissance. Et une différence énorme, la forme de la piété, c'est-à-dire des apparences extérieures. Et on pourrait dire que c'est une boîte en carton vide. Il n'y a rien dedans et il n'y a que des apparences à l'extérieur. Alors que la piété dont Paul parle là, c'est avec une perspective. Et une perspective à deux niveaux. La vie présente, cette course terrestre, et qui s'arrête à un moment, mais qui n'est pas, cet arrêt n'est pas une fin, parce qu'il y a la vie qui est à venir. Il est parlé de promesses, et plus loin, verset 10 au milieu, nous espérons. Donc, une attente. Un regard en avant, avec un exercice, cette vie de piété, cette vie intérieure, secrète, qui a devant elle deux niveaux, le niveau terrestre de ce chemin de la terre et puis le niveau après. La vie qui est à venir, c'est la vie éternelle. Cette vie éternelle que nous avons déjà en un sens et qui se réalisera pleinement quand nous serons avec le Seigneur. Et cette piété est quelque chose qui est nourri, entretenu, développé, avec tout le temps ces deux niveaux devant nous. Ce quotidien, après il nous est parlé de verset 10, nous travaillons, nous sommes dans l'opprobre, d'après la note nous combattons, cette activité terrestre qui a besoin de ce fond de piété pour pouvoir être active, efficace, avec devant toujours cette espérance et cette perspective de cette vie qui est à venir. Et alors, tout ça, c'est quelque chose, on l'a déjà dit, qui est intérieur, qui est secret, qui est entre l'âme et le Seigneur, entre l'âme et Dieu. Mais alors, verset 11, il y a le côté public, ordonne ces choses et enseigne-les. Puis je saute juste au début du verset 12, sois le modèle des fidèles. Cette piété va porter des fruits. Et si on regarde juste ce que nous est dit, le modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. 5 registres où cette piété va s'extérioriser. Ce n'est pas la piété elle-même qui se montre, c'est le fait que la piété est en activité, qu'il y a une activité, cet exercice qui va se manifester dans les paroles, dans la conduite, dans l'amour, la foi, la pureté. La liste, je pense qu'elle n'est pas exhaustive. Là, l'apôtre en relève certaines en particulier. Mais il est intéressant de les voir, c'est utile de les considérer. Dans ce service, en proposant ces choses, verset 6, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus. Paul s'adresse à Timothée comme individu et ayant un service. Il aura ce qu'il va montrer de lui-même. Qu'est-ce qu'il va montrer ? Par ses paroles, par sa conduite, manifestant l'amour, montrant une vie de foi, montrant une vie en toute pureté. J'évoque ces choses plus comme des choses à méditer pour chacun. Nous arrêter sur ces choses-là. Qu'est-ce que ça me dit à moi ? En quoi est-ce que j'ai besoin d'entendre ce que le Seigneur veut me dire sur ce registre, sur ce registre, sur ce registre, pour que ma vie manifeste ce travail de Dieu en moi, manifeste cette relation avec le Seigneur.
Ordonne ces choses et enseigne-les. On a sauté le verset 10. Verset 11, 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Nous savons que Timothée était relativement jeune. Je crois qu'on a essayé de voir quel âge il avait à ce moment-là. On a dit que c'était entre 33 et 36 ans à peu près. Et sans certitude. Et donc là, la difficulté, bien sûr, pour celui qui enseigne et qui est jeune, c'est celle-là, que personne ne méprise ta jeunesse. Et alors, l'apôtre ajoute, mais sois le modèle des fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. C'est-à-dire que celui qui enseigne, eh bien, il doit être un modèle. Et c'est-à-dire, au fond, la vie publique qu'a celui qui enseigne, eh bien, c'est une vie qui est devant tous. Et cette vie doit être en accord avec l'enseignement qui est donné. Et celui qui enseigne, eh bien, il doit vivre la vérité. Il doit être un modèle. Et donc, chacun de ceux qui sont amenés à donner un enseignement, eh bien, ils ont la responsabilité d'avoir une conduite qui est digne. Digne de Dieu, digne du Seigneur. Et si le serviteur ne marche pas correctement, eh bien, il sera vu comme un hypocrite et son enseignement ne sera pas reçu. En parole, un modèle en parole. Ici, sans doute que le premier sens concerne l'enseignement lui-même, c'est-à-dire de découper droit la parole de Dieu. Mais non seulement la découper droit, mais la rendre compréhensible. Et c'est sans doute un point qui est important un enseignement, il doit être compréhensible par tous. Non seulement être clair quant à, aux vérités de, du christianisme, de savoir les présenter, les découper droit, les expliquer, mais il faut que ces vérités soient compréhensibles par tous. Il ne faut pas que nos esprits soient brouillés. Et donc c'est très important pour celui qui enseigne, et ici Timothée, donc qu'il soit un modèle dans les paroles. Mais il s'agit aussi des paroles de la vie quotidienne, et nous savons que les paroles font partie de nos relations, on se parle, et donc dans la vie quotidienne, ces paroles devraient être honnêtes, sans frivolité, sans impureté. Et nous savons que, peut-être dans Colossiens, il nous est dit que ce sont des paroles de grâce assaisonnées de sel.
On peut peut-être aussi encore dire par rapport à ce verset 12 que personne ne méprise ta jeunesse. En général, là, à partir du verset 11, comme on a entendu, c'est le comportement vers l'extérieur. Mais même si dans ce passage-là, Paul il s'adresse à Timothée, c'est aussi une application pratique pour nous par rapport à celui qui parle, qui enseigne, que nous ne le méprisons pas. Et on peut faire une application, non seulement la jeunesse, mais peu importe, il y a des frères qui ont plus de difficultés de s'exprimer, mais il ne faut pas les mépriser.
C'est une première, ce début du verset 12, et est un premier point sur lequel l'apôtre va revenir plus loin. Au début du chapitre 5, il s'adresse alors à Timothée quant à son attitude à lui, ne reprend pas lui rudement l'homme âgé, mais par des jeunes gens, des femmes âgées, des jeunes sœurs. Plus loin, il sera parlé dans le chapitre 5 encore des anciens, verset 17. Il y a tout ce qui est de ces aspects naturels, notre âge, qui nous rattache à une catégorie, à un groupe, on parle bien dans le courant de groupe d'âge, et qui induit des regards, une manière de regarder un groupe d'âge, regarde un autre groupe d'âge d'une certaine manière. Et dans le monde, ça peut être des attitudes qui peuvent être très violentes. Des plus vieux voient les jeunes comme des justes de jeunes qui n'ont rien à dire parce qu'ils sont jeunes. Inversement, des jeunes peuvent voir les plus vieux comme des vieux qui maintenant doivent laisser la place. Je suis un peu cru, mais où là, il y a quelque chose où Paul rend attentif Timothée, autant à ce qui le concerne lui, comment il sera vu par les autres, que comment lui-même doit veiller par rapport à la manière, à son attitude vis-à-vis des autres. Que personne ne méprise ta jeunesse, autrement dit, il faut que ta marche intérieure fasse ressortir que malgré ta jeunesse, tu as un service de la part de Dieu. Il parle alors après de ce don de grâce qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie. Tu as un service donné de Dieu. Et malgré que tu es jeune, que tu sois jeune, il faut que ton service se fasse de telle manière qu'il soit visible, qu'il est de Dieu, que tu es serviteur de Dieu. Donc, que personne ne méprise ta jeunesse, c'est un appel à veiller lui-même à faire ce qu'il faut pour que, dans sa jeunesse, il ne soit pas critiquable, méprisable. Quelque part, ça s'adresse à Timothée qui est jeune. C'est quelque chose, je pense, qu'on peut généraliser pour chacun de nous, pour chacun ce qui le concerne, que notre vie intérieure rende notre apparence, ce qu'on montre à l'extérieur, honorable en tant que serviteur pour ceux qui sont appelés comme service, mais même en tant que frère, en tant que sœur, en tant qu'enfant de Dieu, que Voilà ce qu'on a déjà, ce que j'ai relevé tout à l'heure, les choses que Paul relève là, en parole, conduite, amour, foi, pureté, toutes ces choses-là soient à la hauteur de la place où le Seigneur nous a mis, pour que le Seigneur soit reconnu et que ce qui dans un service est dit puisse être reçu. Et inversement, pour qu'il n'y ait pas une honte, notre attitude, ce que nous extériorisons, n'apporte pas une honte en tant qu'enfant de Dieu.
Nous ne prêcherons pas nous-mêmes. On peut lire 2 Corinthiens 4, le verset 5.
2 Corinthiens 4, verset 5. Car nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons le Christ Jésus comme Seigneur, et nous-mêmes comme vos esclaves pour l'amour de Jésus.
Dans 2 Corinthiens 4, on peut lire aussi les deux premiers versets. C'est pourquoi il y a en ce ministère, donc c'est l'apôtre Paul qui parle de son ministère, de son service, comme ayant obtenu miséricorde. Eh bien, c'est la miséricorde de Dieu qui a confié ce ministère, ce service à Paul. Nous ne nous lassons point. Un des caractères de ce ministère et du ministre qui était l'apôtre Paul, c'était qu'il ne se lassait point. Premier point. Deuxième point, nous avons entièrement renoncé aux choses honteuses qui se font en secret. C'était la marche en pureté de l'apôtre. Nous avons entièrement renoncer aux choses honteuses qui se font en secret. C'est un avertissement pour tous ici de ne pas faire des choses honteuses dans le secret. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de secret. Ne marchant point avec ruse et ne falsifiant point la parole de Dieu. Donc nous voyons que un serviteur, eh bien, ne marchait pas avec ruse pour obtenir peut-être de l'argent ou quoi que ce soit, ne falsifiant point la parole de Dieu. Voilà la pureté de l'enseignement de l'apôtre, mais par la manifestation de la vérité. Donc, l'enseignement de Paul, eh bien, était soutenu par un comportement exemplaire de Paul. Et nous voyons un serviteur de Dieu qui était gouverné par Dieu lui-même et non pas par ses propres sentiments. Et nous voyons que Paul, pour ainsi dire, était transparent. Quand on le voyait dans sa conduite, eh bien, il était transparent dans le sens qu'on avait l'impression immédiate qu'il était d'une honnêteté scrupuleuse. Et nous pouvons sans doute relire ces choses. Il ne pratiquait pas des choses honteuses, moralement scandaleuses. Il ne marchait pas avec ruse, ni droiture, ni honnêteté, mais il marchait justement avec droiture et avec honnêteté. Il n'altérait pas et ne dénaturait pas la parole de Dieu. Puissions-nous être des serviteurs, sans doute pas au niveau de Paul, mais avoir à cœur de suivre un tel exemple d'un serviteur qui était dans les mains de Dieu pour annoncer la parole de Dieu. Donc, le modèle en amour, nous savons dans Romains 5, verset 5, que l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs. L'amour de Dieu dans sa nature même est un modèle des fidèles en amour. Nous sommes appelés à manifester cet amour dans nos relations et comment s'exprime-t-il l'amour dans nos relations ? Par le dévouement, par la tendresse dans les relations, sans doute, l'affection, et aussi par la compassion. En foi, un modèle en foi, nous savons que la foi a plusieurs significations. La foi peut-être ici est sans doute d'abord l'adhésion fidèle à la vérité, mais aussi la confiance inébranlable en Dieu, en sa fidélité. Et avoir cette confiance en Dieu dans toutes nos activités journalières, avoir une foi vivante de tous les instants. Enfin, un modèle des fidèles en pureté, on en a dit quelque chose déjà, mais la pureté, nous savons, englobe toutes les sphères de la vie. Peut-être d'abord la pureté dans l'enseignement ici pour Timothée, mais aussi peut-être dans les relations entre hommes et femmes, frères et sœurs, d'être gardé, d'être pur et de ne pas être marqué par l'impureté dans nos relations ou dans nos relations avec les personnes de ce monde. C'est sans doute un verset qui devrait être gravé dans nos esprits, en chacun, d'être le modèle des fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi.
Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est ce que le Seigneur Jésus manifestait, lui qui était absolument ce qu'il disait? Ce qui m'est permis juste de faire une petite digression, Jacques a parlé de la forme de la piété. On a au début de notre chapitre 4 ceux qui apostasieront de la foi, c'est-à-dire ceux qui abandonneront. Et en fait, ces choses dans la parole sont parfois liées. Et on pourrait lire un passage en Luc au chapitre 8 par rapport à cette semence qui tombe sur le roc. Luc chapitre 8, verset 13. Et ceux qui sont sur le roc sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Et ceux-ci n'ont pas de racines. Ils ne croient que pour un temps. Et au temps de la tentation, ils se retirent. Ils se retirent, c'est le même mot que apostasier. C'est aussi traduit par ils abandonnent. Et on a ici la forme de la piété. En apparence, il y a de la joie. En apparence, ils croient. Mais Dieu veut manifester la réalité des cœurs et il la manifeste au moyen de l'épreuve. Et alors toute chose est mise à sa place. Et simplement une petite discrétion sur la joie. On a ici une joie qui n'est pas celle de Dieu, parce qu'il n'y a pas de repentance au préalable. Et si vous me le permettez, j'aimerais simplement donner deux pensées par rapport à la joie qui est celle des hommes et qui se manifeste aussi dans la forme de la piété, et celle qui est selon Dieu et qu'on peut voir dans la vie du Seigneur Jésus et qui est uniquement le fruit de la vie divine. Et peut-être pour nous, la jeunesse, je m'excuse de dire ça peut-être pour les plus âgés, mais on a aujourd'hui cette tendance et cette influence particulière d'être peut-être attiré par ce qu'on appelle les concerts dits chrétiens. Et il faut reconnaître que dans beaucoup de ces concerts, il y a de la joie extérieurement qui se manifeste, mais c'est certainement cette joie dont il nous est parlé là. Et on peut difficilement dire que Christ est au centre. C'est beaucoup plus l'homme qui est mis en avant. Quand on considère par contre la joie qui vient de Dieu, la joie qui est le fruit de la vie divine et qui s'est manifestée dans la vie du Seigneur Jésus. Simplement deux exemples. On pourrait lire en Luc 15. En Luc 15, par rapport à la brebis perdue, c'est une brebis qui, quelque part, n'a jamais appartenu au troupeau du Seigneur Jésus. C'est une âme qui est perdue. Qu'est-il dit au verset 5 ? Et l'ayant trouvé, il la met sur ses propres épaules, bien joyeux. étant de retour à la maison, il appelle les amis et les voisins, leur disant « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis perdue. Je vous dis qu'ainsi il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Ici, cet homme qui prend cette brebis sur ses épaules comprend bien, c'est le Seigneur Jésus. Eh bien, quelle joie il y a quand il y a une repentance pour le Seigneur Jésus. Et est-ce que c'est aussi notre joie quand une âme est délivrée des pouvoirs du ténèbre, des ténèbres ? Un deuxième exemple, et je m'arrêterai là, on le trouve en Matthieu 11. C'est un passage qu'on a lu il y a quelques dimanches. La joie purement humaine, elle est dépendante des circonstances. Ici, la joie selon Dieu, et qui était celle du Seigneur Jésus, elle est indépendante des circonstances. Simplement le verset 25. En ce temps-là, Jésus répondit et dit « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits-enfants. Oui, Père, car c'est ce que tu as trouvé bon. » Dans le passage de Luc, sauf erreur, il est précisé que Jésus se réjouit en son esprit. Si on lit juste avant, chapitre 11, le Seigneur Jésus est rejeté. Il dit « Malheur, malheur, malheur ». Le Seigneur Jésus est rejeté. Et on pourrait dire que c'est une incohérence de, en apparence, purement humainement, quelqu'un est rejeté et il se réjouit. Pourquoi ? Eh bien parce que le Seigneur Jésus avait ce joug qu'il nous encourage à prendre, « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi ». Ce joug, c'était celui de cette dépendance vis-à-vis de son Père. Il faisait la volonté de son Dieu. Et on peut dire, malgré les circonstances difficiles qu'il traversait, il voyait la main de son Père. Les circonstances n'étaient pas simplement, on pourrait dire, le fruit de la vie. C'est comme ça, c'est le hasard. C'était celle que son Père permettait. Simplement, ces deux passages par rapport à la joie qui vient de Dieu et qui est complètement différente de cette joie purement humaine. Cette joie qui vient de Dieu est certainement le fruit de cette piété dont nous avons parlé. Excusez-moi pour la digression.
La première strophe.
Seigneur.